J'aimerais parler sur Moïse et le serpent d'airain dans Nombre 21, verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu par le mordu et quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Ce récit se passe après les 40 ans de traversée du désert. On sait que le peuple n'est pas loin de l'entrée en Canaan, mais néanmoins, même malgré ces circonstances, on sait que Marie et Aaron sont morts, et sous la conduite de Moïse, ils prennent la direction des plaines de Moab face au pays de Canaan. C'est donc la dernière ligne droite avant d'entrer dans le pays de la promesse. Le peuple trouve néanmoins le moyen de se plaindre encore de Dieu et de Moïse. C'est une constante parmi le peuple de Dieu, une constante regrettable, c'est que le peuple a toujours des choses à dire contre Dieu et il revient toujours à regretter l'Égypte. Et pourtant, l'Éternel les a bénis, Dieu les a conduits dans le désert, Dieu les a protégés, mais ils ont réussi à irriter l'Éternel. Et quand vous lisez le Nouveau Testament, lorsque Jésus s'adresse à Nicodème, il va reprendre cette histoire, l'histoire de ce serpent d'airain, et il va faire une relation entre lui, Jésus, et la vie qu'il va donner sur la croix. C'est dans Jean chapitre 3, verset 14. Il reprend cette histoire et dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert », on retrouve l'histoire du serpent d'airain qui avait été fabriqué par Moïse. Et il faut de même que le Fils de l'homme, et maintenant le Fils de l'homme, c'est Jésus qui va être élevé sur la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et donc on voit une relation entre le serpent d'airain, qui est une figure, une annonce prophétique de la mort de Jésus à la croix, et les principes spirituels qu'on va dégager à travers ce récit sont toujours applicables aujourd'hui. Le premier point, c'est le péché du peuple au verset 4. Versets 4 et 5. Le peuple parle contre Dieu et contre Moïse. On aurait pu penser que quand même, avec tout ce qu'ils ont vu de la main de Dieu, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont traversé les épreuves, mais Dieu les a secourus, ils étaient face à la mer Rouge, Dieu a ouvert la mer Rouge pour eux, ils ont connu les eaux amères de Marah, mais Moïse a jeté un bois et l'eau est devenue potable. Tout ça, c'est l'intervention de Dieu. Ils ont combattu contre Amalek, mais quand Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Et ils ont vu à chaque fois que le Seigneur intervenait en leur faveur. Pourtant, leur cœur est devenu toujours plus dur, impatient, et jusqu'à ce jour-là. C'est pourquoi la patience doit être une caractéristique, une qualité de l'enfant de Dieu qui vous permettra de traverser l'épreuve. Jacques 5, 7 dit ceci, « Soyez donc patients, frères, on pourrait dire frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. » Alors nous vivons dans une époque, c'est vrai, où on aime de moins en moins attendre, on est de plus en plus impatient et pourtant, la Bible nous demande d'être patient, de supporter et d'attendre. L'exemple du laboureur ici nous montre qu'on ne peut pas semer dans la même journée et récolter. Il va falloir semer et patienter. Le laboureur le sait, il va patienter jusqu'à ce que la récolte vienne et il va en profiter du fruit. Donc le peuple parlait contre Dieu et contre Moïse. Et c'est là aussi pour nous, un piège de parler à tort et à travers. Nous devons tirer des leçons du peuple de Dieu dans le désert, car le peuple de Dieu ne réalisait pas les paroles mauvaises qu'ils étaient en train de semer, allaient se retourner contre eux. Et il y a une réelle puissance dans nos paroles. Une parole de bénédiction va être puissante, mais une parole de malédiction va être aussi puissante. Donc la parole peut apporter la paix, la guérison, Proverbe 12, verset 18. « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Par vos paroles, vous pouvez apporter la paix, vous pouvez apporter la bénédiction, des encouragements, faire du bien autour de vous, ou par vos mêmes paroles, ça peut être comme un glaive qui va blesser, qui va trancher et qui va faire du mal. Et la plupart de nous, on a un jour été blessé par les paroles de quelqu'un. Il a été amer, il a été dur, il a été méchant, il a donné des paroles acerbes et ça nous a brisés. On a tous connu des paroles mauvaises. La parole, c'est comme un feu, ça détruit. Donc soit vous allez par vos paroles apporter des encouragements et la paix, et c'est ce que je vous souhaite, ou soit vous allez apporter des malédictions, des difficultés et de l'amertume autour de vous. Le peuple de Dieu reproche au Seigneur de les avoir fait sortir d'Égypte en disant « Mais pourquoi Dieu nous a fait sortir d'Égypte ?» Et ils se plaignent de cela alors que ça faisait 430 ans qu'ils étaient esclaves. Aujourd'hui, ils sont libres, ils ne voient plus ce privilège. Ils se sont lassés des grâces de Dieu, ça veut dire qu'ils ne comptent plus ses bienfaits. Il y a un chant qu'on prend parfois qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Si nous ne le faisons pas, bien nous oublions les bienfaits de Dieu, nous ne les mettons plus devant nos yeux, eh bien nous allons nous plaindre et nous lasser. Donc ils se sont lassés des grâces de Dieu, au point que même un chrétien peut devenir aveugle de ce que Dieu a fait dans sa vie, et il ne se souvient plus de là où Dieu l'a sorti. Alors que dit le peuple? Ils disent, nous sommes dans ce désert, il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Est-ce que c'était vrai? Pas tout à fait. Car Dieu donnait du pain chaque jour. Ils ne voyaient même plus le pain de Dieu. Dieu donnait la manne. Comment est-ce qu'ils appellent la manne ici? Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Voilà, ça c'est la manne, c'est le pain de Dieu. Donc quand on parle du pain de Dieu en disant une misérable nourriture, c'est certain qu'on est mal orienté. Jésus a expliqué que la manne, c'est même une image de lui-même dans Jean 6, 33. Car le pain de Dieu, et Jésus parle de lui-même, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus, c'est comme la manne. Jésus, c'est celui qui va nourrir votre corps, votre âme, votre esprit. C'est lui dont vous avez besoin pour votre vie spirituelle. Et puis le peuple dit, il n'y a pas d'eau. Est-ce que c'était vrai? Pas exactement. Parce que là encore, il y avait de l'eau, mais il ne la voyait plus. Parce que la Bible dit qu'il y avait un rocher qui suivait le peuple, et ce rocher, c'était Christ. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Ça veut dire que le peuple était devenu aveugle spirituellement, il ne réalisait plus qu'il y avait la manne, c'était le pain de Dieu, il ne réalisait plus qu'il y avait le rocher spirituel, c'était Christ qui donnait l'eau spirituelle, ils étaient devenus aveugles. Voilà l'œuvre du diable qui tente à aveugler les enfants de Dieu pour ne plus qu'ils voient les bénédictions de Dieu. Le diable s'efforcera toujours de vous aveugler. Même Paul dit qu'il aveugle l'intelligence des gens pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Le peuple ici a commis un grave péché. Ils ont parlé contre Dieu et ils ont méprisé les dons de Dieu. Ils se sont même influencés les uns les autres pour dénigrer la manne, pour dénigrer Dieu, pour rejeter les grâces de Dieu. Ils se sont exhortés dans le mauvais sens. La Bible dit « Encouragez-vous les uns les autres », mais là, ils se sont découragés les uns les autres. Ils se sont influencés pour le mal. En parlant mal de Dieu, ils ont même attiré sur eux une malédiction. Matthieu 12, 36, Jésus nous avertit, « Je vous dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » Donc les paroles, vous voyez, à tort et à travers, vont produire quand même des conséquences jusque dans le jugement, et il y aura une condamnation. On attire sur nous une malédiction quand on parle à tort et à travers. La vie victorieuse provient d'une discipline quotidienne, et le peuple n'était pas discipliné, il n'avait pas choisi de mettre Dieu à la première place, il ne priait pas sérieusement, il n'avait pas un contact régulier avec Dieu, de sorte que l'ennemi a trouvé une faille. Mais si vous voulez vivre une vie de victoire, c'est nécessaire de développer une vie de discipline. Prier tous les jours, lire la Bible, avoir un contact avec Dieu, vous voyez, c'est fondamental. Un petit peu comme les sportifs, n'importe quel sportif qui veut atteindre un certain niveau va devoir s'entraîner tous les jours, même s'il pleut, il va devoir aller s'entraîner, même si ça ne lui fait pas plaisir, même s'il n'a pas envie, il va devoir le faire. Il le fait pour une médaille, pour la gloire de ce monde. Mais nous, chrétiens, nous le faisons pour les choses spirituelles, pour l'œuvre de Dieu, mais il y a une discipline à observer. Paul en parle très clairement, il dit « Tous ceux qui courent dans le stade, ils courent pour remporter un prix, mais ça c'est un prix terrestre. » Mais il dit « Vous, les enfants de Dieu, courez de manière à remporter le prix. » Mais le prix spirituel, c'est-à-dire la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Alors, nous avons l'intérêt à être vigilant chaque jour. On ne sait pas quand viendra la tentation, l'ennemi qui va surgir. Nous devons être prêts. Il ne s'agit pas de se préparer au moment où vient l'épreuve, mais il faut être prêt, parce que si on attarde trop, on ne sera pas prêt au moment voulu. On a deux personnes qui ont réagi différemment dans la même épreuve. Il y a le cas de David et de Joseph. On sait que David n'avait pas cette discipline spirituelle à ce moment. Et lorsqu'il a vu Bathsheba, il a été séduit, il a été tenté et il a commis l'adultère. Donc ça, c'est un premier exemple de péché dans le peuple, parmi un croyant. L'autre exemple, c'est celui de Joseph. Joseph qui était prêt, lui, spirituellement, qui était proche de Dieu, qui était discipliné. Et quand il a été tenté avec la femme de Potiphar, il a fui. Il a pris une position spirituelle et il n'est pas tombé dans le péché. Pourquoi ? Parce qu'il était vigilant, parce qu'il était proche du Seigneur. Donc c'est ça la différence. Si vous êtes prêt, vous pourrez résister, vous pourrez avoir la force, comme Joseph, mais si vous n'êtes pas discipliné, comme David, qui se laissait aller sur son toit, il traînait, il laissait ses yeux vagabonder à gauche, à droite, et puis voilà, il s'est laissé séduire, n'avait pas cette discipline, et donc, finalement, il est tombé dans le péché. Donc ça, c'est des avertissements pour nous. Le peuple ici n'a pas été discipliné. Le deuxième point, c'est maintenant la sanction, au verset 6. L'Éternel a envoyé contre le peuple des serpents venimeux pour les mordre. Les serpents brûlants, dit le texte, ou les serpents venimeux, on sait qu'un serpent venimeux, s'il vous mord, vous pouvez mourir. Il y a des venins très puissants, comme le cobra royal, qui peut faire périr même un éléphant par la puissance de son venin. Romains chapitre 6, verset 23, le venin, c'est tout simplement une image du péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est une sorte de venin invisible. Si vous l'avez en vous, il va vous conduire à la mort spirituelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc le péché, c'est un venin tellement puissant qu'il va vous conduire à la mort spirituelle. Si vous ne faites rien, ça c'est sûr, c'est la mort spirituelle, la mort éternelle qui vous attend. On ne doit pas prendre cette réalité à la légère, parce que Dieu est saint et juste. Il n'est jamais en communion avec le mal, avec le péché, mais il a pourvu à notre salut. Il a pourvu à notre salut. Il ne laisse pas le péché impuni. On ne doit pas se moquer de Dieu et vivre dans le compromis et laisser le péché s'installer dans notre vie. Même si on est croyant et qu'on laisse le péché s'installer dans notre vie, c'est certain qu'on va avoir des problèmes. Il y a une illustration comme ça, c'est un Esquimau qui avait trouvé une méthode pour tuer les loups. Alors il avait utilisé son couteau et qu'il enduisait d'une couche de sang d'animal et qu'il recouvrait de glace. Et puis il mettait une deuxième couche sur le même couteau. Et puis au bout d'un moment, ça faisait plusieurs couches de sang et de glace mêlées. Et il plantait ça dans le sol, avec bien attaché à un bois. Et les loups, la nuit, ils sentaient l'odeur du sang, ils s'approchaient. Et pour eux, c'était comme un bâton glacé de sang. Alors ils léchaient le sang. Mais en léchant le sang, finalement, petit à petit, ils arrivaient à la lame du couteau. La lame commençait à couper leur langue et finalement, ils ne s'en rendaient pas compte, les loups, mais ils étaient en train de boire leur propre sang. Et ils étaient en train de se vider de leur sang. Et le lendemain matin, le loup était mort parce qu'il s'était lui-même tué par son propre sang en léchant le couteau. Et donc, ça, c'est vraiment une illustration pour montrer que le péché... Quand on aime le péché, on va goûter le péché, on va s'enivrer du péché, mais ça va nous détruire nous-mêmes, ça va nous infecter et ça va produire la mort. Du temps du prophète Samuel, le peuple était devenu très négligent. 1 Samuel 7, verset 3, même on se rend compte que des idoles étaient rentrées dans le peuple de Dieu. Samuel dit à la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, donc se revenir à l'Éternel, c'est la repentance, c'est de dire, Seigneur, je te demande pardon, je me suis égaré. Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les astartés, et dirigez vos cœurs vers l'Éternel, et servez-le, lui seul. Il vous délivrera de la main des Philistins. » Voilà des croyants qui ont accepté des compromis dans leur maison. Ils ont accepté le péché qui est rentré, et finalement, c'était des dieux étrangers qui étaient là. Des Astartés, des Baals, la Bible appelle ça l'adultère spirituel. Or, nous savons que Dieu est un Dieu jaloux et nous devons le servir lui seul. Donc, tout ce qui n'est pas de Dieu n'a pas sa place dans nos maisons. Nous devons nous consacrer à Dieu et consacrer nos maisons à Dieu. Dieu est un Dieu jaloux, il ne partage pas sa gloire et nous serons testés aussi sur notre fidélité et notre intégrité. Un troisième point maintenant, c'est la repentance du peuple au verset 7. Le peuple vient à Moïse et reconnaissent leur péché. Nous avons péché contre Dieu. Nous avons parlé contre l'Éternel. Donc, ça, c'est une étape indispensable pour toute personne qui a péché, c'est de se repentir. Le peuple réalise le mal qu'il a fait. Leur cœur a été touché. Ils demandent pardon à Dieu. Ça, c'est notre part. Si on a péché, on sait le moyen de revenir à Dieu, c'est la repentance. Mais Dieu ne nous pardonnera pas contre notre regret. Si nous ne nous repentons pas, il n'y a pas de pardon. C'est nécessaire cette démarche de dire « Seigneur, je te demande pardon, j'ai péché contre toi ». Cette démarche va permettre l'action de Dieu pour le pardon. Dieu veut pardonner, oui, mais il faut que la démarche soit sincère. Regardez le psaume 51, le verset 19, c'est David qui dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et un cœur contrit. » Donc, il y a cette nécessité de se placer devant Dieu, d'être sincère, de revenir à Dieu de tout notre cœur et de demander pardon pour nos péchés. Le peuple ici a confessé à Dieu son péché. Il reconnaît son égarement, il demande pardon, il demande la grâce et il s'humilie devant Dieu. Donc pour nous, c'est un modèle à suivre, si nous avons péché, bien de venir à Dieu dans la repentance. Il regrette d'avoir méprisé les choses saintes, comme la manne, le rocher spirituel, tous ceux qu'ils ont dénigrés. Mais il faut que nous réalisions la gravité du péché aux yeux de Dieu. Et souvent, nous ne le réalisons pas, il nous faut l'aide de l'Esprit. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est l'Esprit qui va éveiller nos yeux, notre cœur, sur la gravité du péché. Une fois que vous avez réalisé la gravité du péché, vous pouvez vous repentir et demander pardon pour vos péchés. Moïse va prier pour eux, Ça, c'est important. Parce qu'ils avaient parlé, n'oubliez pas, contre l'Éternel et contre Moïse. Mais Moïse n'a pas gardé rancune contre le peuple, malgré le mal qu'ils ont dit, ou tout le mal qu'ils lui ont fait. Il aurait pu se dire, bon, ce peuple est méchant, ils ont dit du mal de moi, ils ont leur punition. Voilà, c'est ainsi. Mais il a préféré pardonner, ça c'est une leçon pour nous, c'est que nous serons amenés à pardonner les autres, même s'ils nous ont fait du mal, même s'ils ont dit du mal sur nous. Et je remarque ici que celui qui va être le canal de bénédiction pour le peuple, ben, c'est celui que le peuple a critiqué, c'est Moïse. Et c'est encore vrai aujourd'hui, la personne que vous critiquez ou que vous jugez sera peut-être l'instrument de Dieu pour votre propre bénédiction. Et ça, nous devons le réaliser parce que ça nous rend plus humbles. Et c'est ce qui va se passer pour le peuple. Ils vont réaliser que celui qu'ils méprisaient, c'est celui que Dieu utilisait pour les bénir. Le quatrième point, c'est maintenant la solution divine. C'est les versets 8 et 9. L'Éternel donne l'indication à Moïse de construire un serpent en airain et de le mettre sur une perche. Et quiconque regardera ce serpent aura la vie. Donc la solution pour le pardon de nos péchés, elle vient de Dieu, ce n'est pas les hommes qui l'ont inventé, c'est Dieu qui a décidé, voilà. Vous allez construire ce serpent et en regardant ce serpent, vous serez guéri de ces morsures de venin des serpents. Le péché est si grave que la solution, elle ne peut pas venir de ce monde. Bah oui, si vous allez dans une pharmacie, il n'y a pas de médicament contre le péché, ça n'existe pas. Par contre, c'est dans la parole de Dieu que vous allez trouver tout ce qui est nécessaire pour être pardonné de vos péchés. Vous voyez, le péché, ça ne se voit pas. Alors, les gens pensent que ce n'est pas grave. Mais c'est pareil, le cancer, on ne le voit pas. Il faut des machines. Mais sur une personne, ça ne se voit pas à l'extérieur. Mais à l'intérieur, il est en train de détruire la personne et est en train de mourir. Elle ne le sait peut-être même pas. Mais si elle est atteinte du cancer, bien, elle est en train de mourir petit à petit. Eh bien, le péché, c'est pareil. C'est comme le cancer, c'est même pire parce que c'est spirituel. Et si on ne le règle pas, ben, ça nous conduit à la mort éternelle. Moïse va faire ce serpent, un serpent d'airain. Il va donc le placer sur une perche en bois pour que tout le monde le voit. L'airain, en fait, c'est un symbole de la justice dans la Bible. La justice de Dieu va s'exercer. La solution était assez simple. Moïse a dit au peuple, vous regardez vers le serpent et quiconque regardera dans la foi sera sauvé. Donc tout le monde pouvait être sauvé. Il fallait juste croire ce que Dieu dit et obéir, tout simplement. Eh bien, aujourd'hui, c'est la même chose. Personne n'est forcé. Il faut juste croire et obéir, croire ce que Dieu dit et faire ce qu'il nous demande. Et c'est ainsi qu'on peut obtenir le pardon des péchés et la guérison, la délivrance, la bénédiction de Dieu. Alors pourquoi Jésus reprend-il ce passage pour parler de lui? Je reviens à Jean chapitre 3, verset 14, puisque Jésus va utiliser ce fameux serpent d'airain pour faire une relation avec lui. Il dit « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Jésus a été élevé sur la croix, lui c'est sur le bois, donc on voit bien le parallèle entre le serpent d'airain sur la perche en bois et puis Jésus-Christ qui a été cloué sur la croix. En fait, quand Jésus était sur la croix, il était entre Dieu et les hommes, il est l'intermédiaire. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Donc ne cherchez pas ailleurs, ne cherchez pas d'autres solutions, venez à Jésus-Christ qui vous permet d'aller à Dieu. C'est par Jésus-Christ que vous allez au ciel, que vous avez la vie éternelle. C'est lui qui a payé le prix pour effacer nos péchés. C'est lui qui a payé le prix pour nous donner une nouvelle vie. Il y a encore une seule condition pour être sauvé, puisque Jésus a accompli l'œuvre de la croix. Il est mort à la croix pour effacer nos péchés, donc ça c'est fait. Mais il y a une condition, parce que tout le monde n'est pas sauvé, il faut croire, et c'est ce que le texte dit, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire en Jésus, ça c'est la seule chose que Dieu demande à l'homme, c'est de croire. Et une fois qu'il croit, eh bien il est pardonné de ses péchés et il est sauvé. La foi est donc indispensable, et je dirais que sans la foi, il n'y a pas de salut possible, puisque le salut, c'est à la fois l'accomplissement de l'œuvre de Christ qui est fait pour tous, mais en même temps la décision personnelle de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Sur les 8 milliards d'êtres humains, eh bien, tous ont la possibilité de croire, tous ont la possibilité de se tourner vers Jésus. Mais comme c'est libre à chacun, certains le font, d'autres ne le font pas. C'est à vous de décider ce que vous voulez choisir. Mais la conséquence de la foi, celui qui croit en Jésus qui a été élevé sur la croix, eh bien, il sera pardonné de ses péchés. De même que celui qui croyait en regardant vers le serpent d'airain, il était guéri de la morsure du serpent, eh bien, de même, vous pouvez être pardonné de vos péchés en regardant vers Jésus qui est mort à la croix. On peut être étonné que Jésus ait repris le symbole du serpent le concernant, puisque le serpent est habituellement une image du malin. On sait que c'est par le serpent que Adam et Ève ont été tentés. La Bible parle du serpent ancien. Le serpent ancien, c'est le diable. Et le serpent est souvent une image du malin. Mais dans ce passage, le serpent d'airain, ce serpent d'airain, c'est bien une image de Christ. Comment est-ce possible ? Bien, 2 Corinthiens 5, 21, Paul ici fait une relation entre le péché et Jésus. Il dit, lui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il ne faut pas oublier qu'à la croix, Jésus a porté nos péchés. Et ça, c'est vraiment l'œuvre du malin, les péchés. Donc, pourquoi l'image du serpent va être utilisée ? Il a été fait péché pour nous. Sur la croix, il a porté notre péché pour l'expier pour nous. Et une fois que nos péchés ont été effacés, c'est la justice de Dieu qui nous a été transférée. C'est pourquoi il y a l'airain qui est le symbole de la justice de Dieu, parce que nous sommes justes à cause de la croix. C'est pour ça que la Bible appelle les chrétiens des saints, saints par vocation, parce qu'ils sont justifiés par le sang de Jésus, tout simplement. Donc les chrétiens sont appelés des saints. On a vu ici le serpent d'airain, le serpent d'airain qui a été un objet de bénédiction. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on le retrouve par la suite du temps d'Ézéchias et qui va devenir un objet de superstition. Et ça, ça nous montre que même les grandes bénédictions peuvent se tourner en superstition si on ne veille pas. On le trouve dans 2 Rois, chapitre 18, verset 4, du temps d'Ézéchias. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Et donc ce serpent d'airain, finalement, qui était une source de bénédiction pour le peuple, eh bien, ils en avaient fait avec le temps une idole. Et ils versaient des parfums devant lui. Et c'était devenu un objet de superstition que Ézéchias a voulu supprimer parce que c'était néfaste pour le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi il nous faut veiller, même si on a des grâces et des bénédictions, à ne pas s'attacher à des superstitions, parce que même des grandes bénédictions de Dieu peuvent être transformées si on ne veille pas. Comme ce serpent d'airain, eh bien on va commencer à plutôt chercher les bénédictions que chercher le Dieu de la bénédiction. On va donc décaler la recherche ou l'adoration, la reconnaissance, plutôt vers ce que l'on peut avoir plutôt que celui qui donne. Et donc ça, c'est aussi un élément sur lequel nous devons veiller. Si nous ne prenons pas garde, une bénédiction peut se transformer en superstition. Et nous pouvons devenir religieux. C'est pourquoi il nous faut prier pour être constamment renouvelés dans le Saint-Esprit et ne pas tomber dans le piège du peuple de Dieu ici, qui a utilisé ce serpent d'airain pour finalement faire une idole. On va prier quelques instants pour que Dieu nous conduise. Merci encore pour ta présence. Et nous croyons que tu veux nous permettre, Seigneur, de, comme ce peuple, de nous repentir avec un cœur sincère, de revenir à toi, de regarder vers toi, parce que ton sacrifice est tout puissant pour nous pardonner et pour nous donner un nouveau départ dans la vie. Oui, nous avons cette confiance, cette assurance que tout ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Et Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité parce que tu as pardonné le peuple, tu lui as donné un nouveau départ et tu as permis, Seigneur, qu'il puisse ressortir victorieux de cette épreuve. Merci, Seigneur, parce que tu as un plan pour chacune de nos vies, parce que tu nous aimes, parce que tu es bon et en toute chose, nous voulons t'adorer, Seigneur. Merci pour ta fidélité, ta grâce. Dans le nom de Jésus, amen. Que le Seigneur vous bénisse.